Vous écoutez On lit pour vous.
L'essor de la misogynie, de l'homophobie et de la transphobie à l'école inquiète les enseignants. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 23 février 2026 dans Le Devoir. Si tu fais ça, t'es gay. Les propos et gestes homophobes, transphobes et misogynes de la part d'élèves sont de plus en plus fréquents dans les écoles, où ils complexifient le travail des enseignants et minent le parcours scolaire de nombreux jeunes, montrent une recherche qualitative menée par un chercheur universitaire pour le compte de la Fédération autonome de l'enseignement, FAE. Dans le cadre de cette recherche visant à étudier le phénomène, 110 enseignants, élèves et intervenants issus de quelque 200 écoles publiques réparties dans 8 régions du Québec ont été questionnés sur les manifestations de l'intolérance à la diversité sexuelle et de la misogynie dont ils ont été témoins ces dernières années. Celles-ci vont de défis entre élèves, sous-entendant qu'être homosexuel est une punition, à des graffitis sexistes ou homophobes, en passant par des propos dégradants visant les filles en raison de leur genre, voire à des saluts nazis et à la dégradation de drapeaux arc-en-ciel dans des écoles, dont certains ont été volontairement incendiés par des élèves. Ces situations ne sont pas isolées ni marginales. La très grande majorité de nos répondants et répondantes ont confirmé qu'elles étaient plus fréquentes depuis quelques années, qu'elles étaient de plus en plus décomplexées, relève l'auteur de ce rapport d'une cinquantaine de pages, le professeur de sciences politiques et d'études féministes à l'Université du Québec à Montréal, Francis Dupuis-Derry. Ce dernier a pris part à une conférence de presse organisée lundi matin par la FAE au centre-ville de Montréal. Les discours qui sont misogynes, antiféministes, homophobes et transphobes, ils sont fréquents dans les classes, dans les corridors et dans les cours d'école, a pour sa part soutenu Marie-Claire, une enseignante au primaire qui a participé au groupe de discussion organisé dans le cadre de cette recherche. Ce qui est particulier, c'est que ce sont des discours qui sont décomplexés de plus en plus, et ça, c'est inquiétant. D'autant plus que ceux-ci sont parfois très violents, a ajouté l'enseignante. Pas une question de religion. Le rapport souligne d'ailleurs que les actes d'intolérance sont commis presque exclusivement par des garçons, peu importe leur appartenance religieuse ou ethnique. Un constat qui contredit, selon ce document, l'argument de plusieurs élus à Québec, selon lequel l'islam serait la source de l'intolérance dans les établissements scolaires. Réduire ces comportements à une question d'immigration ou à une religion ne correspondant pas du tout à ce que nous avons observé sur le terrain. Et donc, penser que c'est ça le problème, ça nous amène à des mauvaises solutions, a ainsi souligné Francis Dupuis-Derry. Les personnes consultées à l'occasion de la réalisation de ce rapport de 50 pages notent par ailleurs que les garçons qui expriment le plus à l'école leur intolérance à la diversité sexuelle sont les joueurs de hockey, les adeptes d'influence masculiniste, de même que les amateurs du nazisme et du président américain Donald Trump. Ce constat n'est pas une accusation contre tous les garçons, c'est important de le dire, mais c'est nécessaire de comprendre que c'est le facteur le plus important si on veut intervenir de façon éclairée et efficace, a ajouté M. Dupuis-Derry. Élèves et enseignants ECOP. Les enseignants et intervenants sondés dans le cadre de cette recherche s'entendent d'ailleurs pour dire que cette intolérance se manifeste de plus en plus dans les écoles du Québec. Une situation qui affecte de nombreux jeunes, qui voient leur estime de soi et leurs résultats scolaires se dégrader en raison du sentiment d'insécurité que ces actes d'intolérance génèrent dans leur environnement scolaire. J'ai vu des jeunes qui se mutilent. J'ai vu des jeunes aller aux toilettes dans les commerces de proximité parce qu'ils ne veulent pas aller aux toilettes de leur école. J'ai même vu un jeune quitter l'école secondaire pour s'inscrire aux adultes, dans l'espoir de ne plus se faire écœurer tous les jours, a relevé Marie-Claire, dont la FAE a préféré taire le nom de famille. Ce phénomène a d'ailleurs aussi des répercussions sur les enseignants qui doivent gérer les situations problématiques dont ils sont témoins avec la direction scolaire et les parents des élèves concernés, ce qui vient alourdir leur charge de travail. Sans compter que des enseignantes comptent parmi les victimes des propos sexistes tenus dans des écoles. Pour les enseignants et surtout les enseignantes et les membres de la diversité, ces attaques en classe représentent une perte de temps et d'énergie en plus d'instiller un sentiment de doute et d'insécurité et d'occuper leur esprit même hors des heures de travail, souligne le document. Poser des actions concrètes. Ce dernier relève ainsi l'importance de mettre en place une série de mesures pour tenter de réduire l'ampleur de l'intolérance affichée par des élèves à l'école. À cet égard, le rapport souligne notamment la pertinence d'organiser dans les écoles des activités de sensibilisation sur le sexisme, l'hétérosexisme, soit les attitudes et préjugés discriminatoires en faveur de l'hétérosexualité, l'homophobie et la transphobie, mais aussi de revoir les codes vestimentaires dans les écoles pour les rendre plus inclusifs. L'aménagement de toilettes mixtes est aussi évoqué. Il faut prendre conscience, mais il faut aussi intervenir, a souligné Marie-Claire, qui a ainsi souligné l'importance de poser des actions concrètes et de se mobiliser pour s'attaquer à un phénomène qui prend de l'ampleur dans les écoles de la province. Pour sa part, la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal, a réclamé une intervention gouvernementale dans ce dossier. C'est inacceptable, cette montée des discours sexistes et homophobes. J'ai l'impression qu'on revient 50 ans en arrière. Pour le gouvernement, ça devrait être la priorité numéro un, d'en identifier les causes et de trouver des solutions. Si nos jeunes garçons ont des comportements et des discours inacceptables, ce n'est pas un hasard. Les réseaux sociaux regorgent de discours masculinistes en provenance des États-Unis qui normalisent ces comportements, a-t-elle dit. C'était l'essor de la misogynie, de l'homophobie et de la transphobie à l'école inquiète les enseignants, un texte de Zachary Goudreau, paru le 23 février 2026 dans Le Devoir.
Deux vieux. Un texte de Louis Cornélier, paru le 31 janvier 2026 dans Le Devoir. Nonagénaires, Gilles Archambault et Gilles Vigneault tiennent bon. Gilles Archambault a 92 ans. Gilles Vigneault en a 97. Sans faire fi du grand âge qui colore leur perspective, l'un et l'autre continuent d'écrire et de publier des livres forts, dont le cœur demeure battant. Je trouve ça beau. Vigneault et Archambault incarnent deux conceptions de la vie et de la littérature. Là où le premier est lyrique, poétique, campagnard, lumineux et optimiste, le second choisit la voie de la douce ironie, de la prose, de l'urbanité, de l'ombre et du pessimisme. On pourrait croire, dans ces conditions, qu'il importe de choisir entre l'un et l'autre selon nos inclinations personnelles. Je refuse. J'ai besoin des deux qui me nourrissent à leur façon respective depuis des décennies. Dans puis « Je serai seul », Boréal, 2026, 120 pages. Archambault regroupe de courts récits à teneur autobiographique, des divagations, note-t-il, et de laconiques nouvelles dans lesquelles les personnages masculins lui ressemblent. L'un d'eux, par exemple, évoque ce malaise de vivre qui ne l'a jamais quitté depuis les années de l'enfance, et presque tous, bien que sans illusion à cet égard, sont émoustillés, en tout bien tout honneur, par la présence de jeunes femmes dans leur entourage. Toute l'œuvre d'Archambault s'est construite autour de l'idée que l'existence est une lente épreuve. Camus et Beckett, chez lui, ne sont jamais loin. Les humains, finalement, ratent toujours plus ou moins leur vie, mais que voudrait dire la réussir de toute façon, et entretiennent des regrets inutiles avant de retourner au néant d'où ils viennent. Une telle conception du monde, c'est forcé, débouche sur une œuvre dominée par la mélancolie. À la longue, ça peut devenir écrasant. Chez Archambault, toutefois, cette morosité existentielle est toujours dédramatisée par un pas de côté tranquille, par une sorte de résignation apaisée devant le sort humain. « C'est ça qui est ça, et faisons avec », semble dire l'auteur et ses personnages, en espérant que la communication de tels constats adoucira l'épreuve de vivre. Et ça marche, avec moi en tout cas, qui, même sans communier au désabusement en question, revient vers Archambault comme vers une drogue réconfortante. Peut-être est-ce parce que j'ai toujours senti que le désenchantement de l'écrivain par rapport à la vie laissait passer de l'air, n'avait rien de catégorique. Archambault, depuis 60 ans, dans un style essentiellement minimaliste et tamisé, d'une remarquable limpidité, raconte un malaise existentiel de fond, mais sans phase aiguë, sauf peut-être au moment de la mort de sa femme, il y a 15 ans. Or, nul être humain, même le plus guéluron d'entre nous, n'échappe à cette grisaille. En l'évoquant avec finesse et simplicité, dans le fond comme dans la forme, Archambault nous convie à l'exploration d'un mal-être indissociable de l'expérience humaine. C'est son génie. En guise de consolation, il révèle même ici que le grand âge a fait disparaître son inquiétude devant l'absurdité de l'existence. La tristesse dont il n'a jamais su se défaire lui a fait manquer les moments de bonheur de sa vie, mais il se dit, aujourd'hui, curieux de ceux qui sont à venir. Il va même jusqu'à avouer avoir de plus en plus de scrupules à médire de la vie et ne pas souhaiter la mort. Entre l'être et le néant, comme un Sisyphe enfin un peu heureux, il choisit l'être. Pour Gilles Vigneault, la décision n'a jamais fait de doute. Volontaire, partisan d'une sagesse joyeuse, mais non moins lucide, qui donne le goût de se battre pour vivre debout et pour assurer la suite d'une nation et d'un monde à la fois précieux et fragile, notre barde par excellence ne médit jamais de la vie, mais la chante, en écorchant parfois ceux qui la blessent. En 2008, Vigneault affirmait, dans une chanson bilan intitulée « Chemin faisant », n'avoir pas marché en vain. Dans « Le chemin montant », Boréal, 2026, 120 pages, réédition d'un recueil de poèmes paru en 2018, il dit se trouver maintenant sur le chemin qui mène vers le haut, celui au bout duquel, en pèlerin debout, il espère enfin trouver sa vraie demeure. Ce chemin ne m'est pas tout à fait inconnu, et j'en connais le bout, mais jamais la distance, qu'il me reste à courir. Au loin, on voit que dansent les ombres d'amis qui n'en sont point revenus. C'est de la nouvelle et magnifique ancienne poésie. Chercheur de sens et d'absolu qui n'a pour viatique que les mots, le poète se fait géologue en forant inlassablement le langage. Je sens que si j'abandonne, je n'aurai pas mérité d'entendre ce que fredonne l'éternité, écrit-il avec une parfaite justesse. En lisant ces deux vieux écrivains que j'aime, je me sens comme Clémence Desrochers, observant les deux vieilles de sa si belle chanson du même titre. J'ai un peu moins peur de vieillir. C'était « Deux vieux », un texte de Louis Cornelier, paru le 31 janvier 2026 dans Le Devoir.
La sous-traitance n'est pas une solution pour sauver le transport collectif, estime l'IRIS. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 12 février 2026 dans Le Devoir. La sous-traitance n'est pas le remède aux problèmes financiers des sociétés de transport et risque même de réduire la fiabilité des réseaux et la qualité du service, estime l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS, dans une étude rendue publique en février 2026. En 2023, Québec avait commandé des audits de performance des sociétés publiques de transport aux prises avec d'importants déficits. Dans un rapport publié l'année suivante, la firme Raymond Chabot Grant Thornton, RCGT, avait formulé plusieurs recommandations afin de dégager des économies récurrentes estimées à 346 millions par année. Elle suggérait notamment aux sociétés de transport de confier certains services au privé, comme le fait Exo avec son service d'autobus qui est assumé par un fournisseur. La firme avait fait valoir que la rémunération des chauffeurs de bus des fournisseurs privés était inférieure à celle des chauffeurs du secteur public. Le recours à la sous-traitance était donc susceptible de permettre des économies de 72 millions de dollars aux sociétés de transport, soulignait-on. Effet sur la qualité du service. Colin Pratt, chercheur à l'IRIS, juge toutefois que l'audit réalisé par RCGT comporte des lacunes, car il ne tient pas compte des effets potentiels de ses recommandations sur la qualité du service. Colin Pratt a donc analysé les ruptures de service et le taux de satisfaction de la clientèle des 10 principales sociétés de transport du Québec. Exo est la seule société de transport à sous-traiter l'entièreté de son service d'autobus, mais elle est moins performante quand on examine le nombre de ruptures de service et la satisfaction des usagers, a constaté le chercheur. Le rapport de Raymond Chabot érigeait le modèle d'Exo, qui est une sous-traitance entière, comme un idéal à suivre et à répliquer chez les autres sociétés de transport. Mais cette conclusion-là a été formulée sans égard à la dimension cruciale de la qualité des services, estime Colin Pratt. Exo affiche le coût par kilomètre le plus bas parmi les 10 sociétés de transport. Mais, à la lumière de données obtenues grâce à la loi sur l'accès aux documents auprès des sociétés de transport, M. Pratt a notamment constaté qu'Exo affichait un taux de rupture de service deux fois supérieur à celui de la Société de transport de Montréal, STM, et près de trois fois plus important qu'à la Société de transport de Laval, STL. En 2022 et 2023, le manque de personnel chez Exo a été la cause principale de ces ruptures de service. M. Pratt a également examiné le volume de plaintes des usagers. Exo affiche le nombre le plus élevé de plaintes reçues par 100 000 embarquements. Dans les 5 plus récentes années étudiées, le taux de plaintes reçues par Exo a été 4 fois supérieur à celui des sociétés de transport de la région métropolitaine, souligne-t-il. Donc, si on suivait aveuglément la recommandation d'accroître le rôle du secteur privé dans les services de transport en commun, on se retrouverait avec une crise de fiabilité du service. Il y a 2 semaines, Exo a annoncé l'abolition de 73 postes dans le cadre d'un exercice de compression. C'est un service qui bat déjà de l'aile, note le chercheur. Colin Pratt juge la situation d'Exo d'autant plus préoccupante qu'il s'agit d'un service desservant les banlieues où le taux de voitures par habitant est particulièrement élevé. C'est l'inverse qu'on devrait voir, c'est-à-dire des banlieues qui peuvent compter sur une offre de transport en commun étendue et de qualité afin de concurrencer l'automobile. Le chercheur de l'IRIS s'est aussi intéressé à une autre recommandation de l'audit de RCGT qui suggérait aux sociétés de transport d'accroître la sous-traitance pour les activités d'entretien non liées à la prestation de services afin de dégager des économies. Or, souligne M. Pratt, la vérificatrice générale de la Ville de Montréal en était venue à la conclusion contraire dans son rapport publié en 2025. Celle-ci avait observé une baisse de la remise à neuf de pièces d'équipement d'autobus à l'interne, ce qui avait fait grimper les coûts pour la STM. C'était « La sous-traitance n'est pas une solution pour sauver le transport collectif », estime l'IRIS. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 12 février 2026 dans Le Devoir.
L'autre référendum. Un texte de Chantal Hébert publié dans l'actualité édition de mars 2026. Si la tendance se maintient, l'Alberta et non le Québec pourraient être la prochaine province à remettre en cause son appartenance à la Fédération canadienne. En effet, si les groupes qui pilotent le projet de séparation de la province réussissent à réunir 177 732 signatures en faveur d'un référendum d'ici le début du mois de mai, la tenue d'un vote provincial sur le maintien de l'Alberta au sein du Canada pourrait avoir lieu avant la fin de 2006. Selon le calendrier électoral albertain, la province doit aller aux urnes en 2027. On peut croire que le gouvernement conservateur de Daniel Smith voudrait avoir réglé avant cela un dossier qui divise au premier chef ses partisans. D'après le sondeur Angus Reid, la quasi-totalité des électeurs qui seraient partants pour voter oui s'identifie au parti de la première ministre. C'est dans ce contexte et dans la foulée de la réélection d'un gouvernement libéral fédéral le printemps dernier que celle-ci s'est engagée à tenir un référendum cette année, à condition que ses promoteurs récoltent le nombre requis de signatures pour l'exiger. Dans le scénario actuel, les Albertains pourraient donc être appelés à dire s'ils veulent que leur province, guillemets, cesse de faire partie du Canada pour devenir un État indépendant, fin des guillemets, au moment où leurs compatriotes québécois iront aux urnes. Le sort du projet péquiste de faire le même exercice au cours d'un premier mandat au pouvoir se jouerait alors avec en toile de fond le référendum albertain. À première vue, une victoire du camp du oui semble improbable. L'appui à l'indépendance est encore plus faible dans les prairies qu'au Québec, où il demeure néanmoins largement minoritaire. Contrairement à son lointain cousin québécois, le mouvement indépendantiste albertain n'a jamais connu de succès électoral. Au fil du temps, un seul séparatiste albertain a réussi à se faire élire à l'Assemblée législative, et cela remonte à 1982. Le mouvement n'est pas non plus animé par de grands ténors politiques. Jusqu'à présent, c'est plutôt dans le camp du non qu'on retrouve les têtes d'affiche de la politique albertaine. L'ancien premier ministre Stephen Harper, son ex-ministre Jason Kenney, ex-premier ministre de l'Alberta, sa prédécesseur néo-démocrate Rachel Notley et Naïd Nenshi, l'ancien maire de Calgary, qui dirige maintenant les néo-démocrates dans l'opposition officielle à Edmonton, sont tous des adversaires du projet d'indépendance. Qui plus est, On est ici beaucoup moins devant un projet de société articulé autour d'un éventuel pays que devant un flirt avec des valeurs qui ont davantage cours au sud de la frontière. On a abondamment parlé d'ingérence étrangère au Canada ces derniers temps, et cela presque toujours en relation avec la Chine et l'Inde. Mais dans le cas de l'Alberta, il est plutôt question d'ingérence américaine. Les liens entre les indépendantistes albertains et le mouvement MAGA du président Trump sont bien documentés. L'appui d'une masse critique de partisans du oui à l'annexion de la province aux États-Unis fait également partie du paysage. Dans des entrevues récentes, les figures de proue du mouvement MAGA se délectaient d'avance de l'arrivée de l'Alberta et de son pétrole dans le giron américain. Au cours des mois à venir, personne ne serait étonné de voir l'administration Trump encourager implicitement ou même ouvertement le mouvement pro-annexion albertain. De telles interventions feraient fort probablement plus de mal que de bien à la cause de l'indépendance de l'Alberta. C'est une perspective susceptible de refroidir les ardeurs d'une partie de ceux qui désirent voter oui simplement pour envoyer un message au gouvernement fédéral. La vaste majorité des Albertains, toutes tendances confondues, ne veulent rien savoir d'une annexion aux États-Unis. Le premier ministre Mark Carney a néanmoins de bonnes raisons de suivre les événements de près. Il était aux premières loges du débat qui a mené le Royaume-Uni à quitter l'Union européenne il y a quelques années dans le cadre du Brexit. À ses yeux, le dossier albertain et la désinformation délibérée qui s'infiltre dans la conversation ont des airs de déjà-vu. Par ricochet, tout cela n'augure rien de particulièrement positif pour le projet référendaire du Parti québécois. Au Québec, comme en Alberta, l'intérêt déplacé de l'administration américaine et du mouvement MAGA pour le démembrement du Canada n'est pas une condition gagnante pour la cause souverainiste. L'unité canadienne aurait bien des chances de sortir intacte d'un éventuel référendum albertain en 2026, mais on ne peut prédire la même chose en ce qui concerne la relation canado-américaine. Fin de ce texte de Chantal Hébert titré « L'autre référendum » publié dans l'actualité de mars 2026.